Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10. Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10. Au nom de Jésus. Le prêtre prendra la corbeille apportée et la placera devant l'autel du Seigneur votre Dieu. L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte. Il y a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, opprimés, en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des miracles et des prodiges. Il nous a conduits jusqu'ici, il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur, votre Dieu. Amen. Le thème de notre culte aujourd'hui, ainsi que la méditation, c'est sur l'oubli. Nous avons déjà entendu un dimanche ici une prédication sur le sens des offrandes. On avait dit à ce moment-là qu'elles sont les prolongements d'une confession de foi. Une offrande, c'est une confession de foi. On n'achète pas la faveur de Dieu par des offrandes. Au contraire, c'est encore le prolongement de notre confession de foi. Et le texte que nous avons aujourd'hui le reconfirme encore. Car les versets 5 à 10 sont une ancienne confession de foi prononcée par les Juifs lors de la fête de la récolte. Donc, à chaque fête de la récolte, ils prononcent ces histoires-là. Et toutefois, ce matin, je ne vais pas du tout faire une sensibilisation sur les offrandes, rassurez-vous, ce n'est pas le but, mais expliquer le lien entre l'offrande, la confession de foi est le but de cette confession de foi. Le lien entre l'offrande, la confession de foi et le but de cette confession de foi. Dimanche passé, nous avions aussi évoqué quelle devrait être l'attitude ou l'éthique d'un chrétien, rappelez-vous. En gros, si je résume un peu, nous ne fonctionnons pas par des « tu dois faire ceci ». L'Église n'est pas là pour dicter ce que tu dois faire. Le pasteur n'est pas là pour te dicter ce que tu dois faire. Non, ce n'est pas son rôle. Ou bien voici une formule standard à suivre dans ta relation avec le Seigneur. C'est ta relation personnelle et personne ne doit s'y interposer. Même chose aussi pour notre texte de ce matin. Je ne vais pas aller dans la direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sensibilisation ni d'incitation à donner, non. Je préférerais aller à la source, expliquer le sens de ces offrandes et sa finalité spirituelle surtout. Il est très intéressant de voir le contexte de ce type d'offrande qui, soulignons-le, est symbolique. L'offrande est symbolique, puisqu'il s'agit que des prémices de tous les fruits de la terre. Et il faut voir à quel moment Dieu a demandé aux enfants d'Israël de le faire. C'est lorsqu'il entra dans la terre promise. Regardez au verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, c'est à ce moment-là que tu feras cette offrande. C'est-à-dire, c'est un geste de reconnaissance envers son Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a reçus. Et cette façon de faire est totalement à l'opposé de toute forme d'offrande que toutes les religions connaissaient dans l'ancien Proche-Orient. Les offrandes, depuis toujours, étaient en vue pour avoir la faveur d'un dieu. Pour plaire à un dieu, il fallait apporter une offrande pour recevoir sa bénédiction. Mais le dieu d'Abraham ne fonctionne pas ainsi. Le dieu d'Abraham, il donne d'abord. Et c'est après que tu apportes ton offrande de reconnaissance. Si nous faisons un petit rappel de quelques histoires bibliques, telles que le récit du déluge, rappelez-vous quand l'eau a baissé, et une fois que Noé et ses enfants, avec toutes les bêtes dans l'arche, étaient dehors, quelle est la première chose que Noé avait fait? Il bâtit un autel pour le Seigneur et offrit des holocaustes. Et il est bien mentionné dans le texte que le Seigneur sentit cela agréable. Intéressant. Vous savez, en hébreu, les Hébreux sont des paysans qui utilisent des métaphores, des images. Le nez, ici, il parle de, bien sûr, de l'odeur, mais en même temps, ça peut parler de colère, mais aussi de satisfaction. Dieu qui prend toute sa satisfaction dans ce genre d'offrande. Autre exemple, Moïse et le peuple d'Israël, sortis de l'Égypte, après que Dieu leur ait infligé les 10 plaies d'Égypte. Ils traversèrent la mer Rouge, ensuite ils ont commencé à vivre les difficultés dans le désert. L'Éternel les a donné l'eau de Mara, la manne et l'écaille, l'eau de Massa et de Meriba, la victoire sur les Amalécites, et par la suite, après tout, on va dire ce succès fulgurant, le beau-père de Moïse, qui s'appelle Jéthro, est venu à sa rencontre dans le désert, vers Moïse. Et en voyant les grandes œuvres de l'Éternel, Jéthro a confessé, il a fait une confession de foi, que Yahvé est le plus grand de tous les dieux. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait leur dieu. Et après avoir fait cette déclaration de foi ou confession de foi, lui ainsi que Moïse avait fait prix un holocauste et sacrifice pour Dieu. Vous voyez, confession de foi, offrande. Rien qu'avec ces deux exemples, nous pouvons dire que l'offrande est une marque d'action de grâce, bien sûr, de reconnaissance non seulement de ce que Dieu a fait pour son peuple, mais aussi, c'est une confession de foi. Et cette confession de foi est comme contenu, il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Donc si tu apportes ton offrande à Dieu, ça veut dire que tu proclames qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Et tu ne t'agenoues pas devant maman, tu ne t'agenoues pas devant l'argent, mais devant Dieu uniquement. Faites attention. Vous pourriez donner 1000 euros à Dieu, mais peut-être que vous vous agenouillez devant maman. Il se peut que vous ne donnez que 50 centimes, mais vous ne vous agenouillez pas devant maman. Donc, quelle est notre attitude pendant l'offrande, pendant que nous donnions cet argent-là? Est-ce que c'est pour acheter la faveur de Dieu? Est-ce que c'est pour espérer une bénédiction? Non, c'est une confession de foi. Que ma vie ne dépend pas de cet argent. Ma vie dépend de l'Éternel, uniquement. Une question se pose alors, quand nous apportons nos offrandes à Dieu, quel est le sentiment que nous avons au moment où nous faisons cela? En tenant compte de tout ce que nous avons dit, offrir les prémices ou donner des offrandes, c'est un acte de foi. Ce n'est pas une participation à l'œuvre de l'Église. Ce n'est pas une cotisation, je suis désolé, même si nous sommes membres électeurs de l'Église. C'est un acte de foi qu'il faut donner pour, non pas pour l'Église, non pas pour la communauté, mais pour afficher notre foi. Et cette confession de foi prononcée par les Israélites lors de la fête de la récolte est une façon de se rappeler et de ne pas oublier ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Alors celui qui apporte l'offrande, regardez, c'est intéressant comme confession de foi, celui qui apporte l'offrande cite en même temps l'historique du peuple, à partir de Jacob, qui a quitté son pays, sur le fait qu'il n'était qu'un immigré. Oh, mes ancêtres n'étaient que des immigrés. Ils n'étaient que 70 personnes arrivées en Égypte, dans des conditions difficiles, cherchant secours auprès du Pharaon pour cause de famine. Ensuite, ils ont pu s'agrandir parce qu'ils ont reçu une terre de la part du Pharaon via Joseph, une sorte de terre d'asile. Et après, ils ont été réduits à l'esclavage. Et enfin, dans le récit, on raconte qu'ils ont été libérés de l'esclavage par des grands signes et des prodiges, bien sûr en faisant allusion à la traversée du désert. Et les voilà à la porte de la terre promise. Dans ce texte. Et dans cette façon de raconter ce périple, on sent que l'auteur veut mettre l'accent sur le fait est que ce peuple n'est rien du tout. Ce peuple n'avait aucune terre. Il n'avait rien. Son existence, sa pérennisation dépend uniquement de l'Éternel. Et si vous regardez l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ça se voit. Ce petit bout de pays qui crée tant de problèmes au monde entier, ce peuple, il est venu de rien, du néant. Mais il est là, il existe, il subsiste, quelles que soient les remarques et les critiques qu'on peut lui donner, c'est Dieu qui l'a choisi. Alors le but de cette confession de foi, chers frères et sœurs en Christ, lors des offrandes, est de raviver notre mémoire. N'oublie pas qui tu es, d'où tu viens et comment tu es devenu aujourd'hui. Ne l'oublie pas. On sent qu'il y a une forte inquiétude de la part de l'auteur ici. Comme nous le savons, le livre de Deutéronome est une récapitulation des événements qui ont marqué la vie d'Israël. Et cette inquiétude est mentionnée explicitement. Je vais vous lire le texte. Dans Deutéronome chapitre 8, si vous avez votre Bible sous vos yeux, je vous invite à le lire. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 15, écoutez bien ce que dit ici l'auteur. Cette inquiétude, elle est bien palpable. Le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne et le figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous vous construirez de belles maisons où vous vous installerez. Vous posséderez davantage de bœufs, de moutons, de chèvres, davantage d'argent, d'or et de biens de toutes sortes. Veillez alors à ne pas devenir orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Il vous a conduit à travers l'immense redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Amen. La nouvelle génération, qui n'a pas vécu tout ce que leurs parents ou leurs ancêtres ont subi dans le désert, ils avaient besoin de ce rappel. Et surtout, ils ne savaient pas ce que c'est que la souffrance de leurs parents. La souffrance de leurs parents en Égypte. Ils n'étaient pas conscients de l'ampleur de ce qui s'était passé. D'où l'importance de rappeler, et si vous lisez dans Deutéronome, lors des séances de catéchisme juive, il fallait, au moment où on attendait le souper le soir, les parents devaient raconter tout le temps cette histoire aux enfants. N'oubliez pas les enfants. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que l'Éternel nous a libérés de l'Égypte. C'est le devoir des parents de rappeler. Et le Shabbat a ce rôle, justement, de rappel que c'est Yahvé qui est le Créateur. Et que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais de ce que Dieu lui procure. La fête des Pâques juives aussi a pour but de rappeler aux enfants d'Israël comment Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte et comment il les a sauvés de la main du Pharaon. Lui qui n'était qu'un peuple esclave sans force. Mais ce peuple esclave a su mettre à genoux le grand Pharaon. Le roi soleil était à genoux devant ce peuple esclave. Quelle honte! Et on a même effacé cette histoire dans les archives du monde, vous savez. Tellement c'est honteux de voir un esclave qui met à genoux un roi. Et pendant la célébration pascale, la nouvelle génération apprend à connaître non seulement son histoire, mais aussi qui est son Dieu. Et il se rend compte que son histoire est liée avec celle de son Dieu. Chers frères, pour clôturer ce message, n'oublie pas que la vie que tu as actuellement n'est pas du tout un hasard, ni le fruit de tes efforts. Il se peut que nous sombrions facilement dans l'oubli. Avec le train-train quotidien, on oublie vite. Mais dans les deux cas de figure, nous oublions facilement la main de Dieu qui est derrière chaque situation. Nous avons la mémoire trop courte. D'un côté, lorsque tout se passe bien, nous oublions la grâce. Et comme disait un pasteur, quand on est dans la grâce, nous sommes gâtés pourris par la grâce. Et quand tout va mal, nous ne voyons plus aussi la main de Dieu. Dans les deux cas de figure, nous ne voyons plus la main de Dieu. Et c'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit qui joue le rôle d'aide-mémoire. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque fois. Dans l'évangile de Jean, il est dit « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen.